Bonjour, au sommaire aujourd'hui. Le Parlement européen, dirigé par une opposante à l'avortement, la Maltaise Roberta Metsola, a été élue ce matin. Ses pouvoirs sont limités. Un symbole, est-ce un détail négligeable ou révélateur? Une partie de la gauche appelle à la démission de Jean-Michel Blanquer. C'est depuis Ibiza aux Baléares qu'il a annoncé le nouveau protocole sanitaire à l'école à la fin des vacances de Noël. La séance de questions au gouvernement cet après-midi à l'Assemblée s'annonce agitée. Christiane Taubira, toujours aussi difficile à saisir, elle prend le risque de la primaire populaire, mais refuse de dire sur France Inter si elle se retirera en cas de défaite. La démographie française absorbe petit à petit le choc du Covid. En 2021, moins de morts, plus de naissances et de mariages qu'en 2020, mais on ne retrouve pas le niveau d'avant-pandémie. Nous sommes près de 68 millions. On en parle avec la chef de l'unité des études démographiques et sociales à l'INSEE. Autre chiffre clé, ceux des prix des carburants. 1,60 et même plus le gazole, plus d'1,70 le sans-plomb. Ça fait mal.
Ben là, par exemple, je viens de payer 65 euros contre 50 d'habitude. Et comme je suis étudiant, je vous cache pas que c'est quand même un peu la galère.
Coût de l'énergie, dette qui se creuse. Un économiste appelle les candidats à se saisir des questions économiques. Jean-Hervé Lorenzi est notre invité à 13h30. Toutes vos questions sur la situation éco 01 45 24 7000 et l'appli France Inter rubrique Réagir. Vos rendez-vous dans le 13-14, le feuilleton avec les compagnons du devoir cette semaine. Et dans C'est une chanson, le Québécois qui monte, Vincent Roberge, est avec Frédéric Pommier. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
40 ans après Simone Veil, 20 ans après Nicole Fontaine, une femme dirige à nouveau le Parlement européen. À Strasbourg ce matin, les députés ont élu Roberta Metsola. C'est une jeune femme, elle vient d'un petit pays, Malte. Jolie preuve de renouvellement. Personne ne doute de sa maîtrise des dossiers. Elle est députée européenne depuis près de 9 ans. Elle défend le droit d'asile, les communautés LGBT+. Mais elle est opposée à l'avortement. Elle qui vient d'un pays où il est illégal l'avortement, même en cas de viol. Près de 40 ans après Simone Veil, la première présidente du Parlement de Strasbourg, le contraste est énorme. Louise Baudet, Roberta Metsola, a été élue dès le premier tour donc ce matin.
Un beau cadeau d'anniversaire pour Roberta Metsola, 43 ans aujourd'hui. L'eurodéputée conservatrice l'emporte largement, notamment grâce aux voix des sociaux-démocrates et des libéraux auxquels elle a ce matin encore donné des gages.
Je serai une présidente qui construit du consensus, qui écoute. Je l'ai fait dans mon pays sur des sujets où les majorités sont difficiles à trouver. Les migrations, la lutte contre la corruption, les droits des LGBT, l'émancipation des femmes et des filles. Je m'engage à ne jamais me dérober face aux décisions difficiles et à toujours défendre les positions de ce Parlement, toujours et partout.
Toujours et partout, quitte à mettre dans sa poche ses convictions personnelles anti-avortement, à l'image de son île Malte, où l'IVG est totalement interdite. La candidate de la gauche radicale, l'espagnole Sira Rego, a eu beau monter au créneau.
Ce Parlement doit défendre le droit des femmes. Pas un seul pas en arrière dans notre droit à disposer de notre corps. Pas un seul pas en arrière dans notre droit à l'avortement.
L'engagement européen de l'avocate maltaise a eu raison de ses préventions, bien aidé en cela par les intenses tractations entre conservateurs, sociaux-démocrates et libéraux qui ont abouti au recalibrage de la répartition des postes entre ses adversaires et également partenaires. Strasbourg, Louise Baudet, France Inter.
Le symbole de cette élection me gêne, reconnaît le secrétaire d'État français aux affaires européennes Clément Beaune. Il rappelle que c'est le résultat d'un accord entre partis et pays sur la répartition des postes au sein du Parlement européen. Et Clément Beaune assure que dans l'accord de coalition, il est précisé que les progrès sur les droits des femmes et des minorités doivent continuer en Europe. Europe qui est le sujet de la campagne électorale aujourd'hui et demain. Demain, Emmanuel Macron sera devant les députés européens à Strasbourg. Parmi les élus qui lui répondront, il y aura Yannick Jadot, eurodéputé et candidat à la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon veut occuper la place aussi. Il sera en réunion publique demain soir à Strasbourg. Et c'est dès aujourd'hui que Marine Le Pen parle d'Europe. Conférence de presse ce matin à Paris, Élodie Forêt.
D'emblée, Marine Le Pen pose le duel. Ma vision de l'Europe, dit-elle, est l'antithèse de celle d'Emmanuel Macron.
L'élection présidentielle sera pour les Français l'occasion de trancher entre deux visions de l'Europe. Celle que portent les européistes, d'une Union européenne oublieuse des peuples et dominatrice des nations, et celle que je porte, d'une alliance européenne des nations.
La stratégie est claire, réinstaurer le face-à-face, Macron-Le Pen. Dans le fond, que veut la candidate? Fonder une Europe des nations, prioritairement en réformant Schengen, rétablissement des contrôles aux frontières nationales avec des accords qui pourraient se mettre en place avec les pays qui maîtriseraient leur politique migratoire. Une refonte qui passe aussi par une sortie des traités de libre-échange.
L'Union européenne doit renoncer à être selon l'expression d'Hubert Védrine, l'idiot du village global, en laissant les États européens défendre leurs champions nationaux et européens et donner la priorité à leurs entreprises dans l'accès à leur marché public.
Marine Le Pen qui souhaite aussi transformer la Commission européenne en simple secrétariat du Conseil. Des réformes qui nécessiteraient de convaincre de nombreux États de se rallier à sa cause, ce qui aujourd'hui est très loin d'être acquis au vu notamment des difficultés à monter un super groupe nationaliste au Parlement. On m'a dit toute ma vie que les choses étaient impossibles, mais vous verrez, nous y arriverons, rétorque la candidate.
La campagne, c'est aussi le début d'année très agité de Jean-Michel Blanquer. Une grève massive la semaine dernière. Un appel plus limité à une nouvelle journée de mobilisation après-demain contre la désorganisation à l'école. Et puis une partie de la gauche, et là encore des syndicats, lui reprochent autre chose. C'est au tout dernier moment, la veille de la rentrée scolaire, que le protocole sanitaire très critiqué du début d'année avait été dévoilé par le ministre, dévoilé dans une interview au journal Le Parisien, et réalisé à distance alors que le ministre était à Ibiza, dans les Baléares. Mépris, irresponsabilité, tonne le candidat à la présidentielle Yannick Jadot. Cela creuse encore plus le fossé entre le ministre et ses personnels. Pour la secrétaire générale du SNUIPP, le premier syndicat dans le primaire, la règle, s'agissant des vacances, est d'être joignable en permanence et à sa tâche. C'était le cas de Jean-Michel Blanquer, le défend Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Ibiza comme un symbole, est-ce important ou non, à chacun son avis. En tout cas, l'après-midi à l'Assemblée nationale s'annonce agitée. Anne Souhaitement, la matinée l'était déjà.
Une gauche presque à l'unisson, comme les écologistes et les socialistes, les insoumis demandent la démission de Jean-Michel Blanquer. Pour la députée Clémentine Autain, il y a faute politique car le ministre a menti.
Il y a une mise en scène du ministre au travail qui explique qu'il est parfaitement à sa tâche, dans son bureau, et en réalité, il est à Ibiza en vacances. Pourquoi mentir ? Je pense que c'est aussi le symbole d'Ibiza. Voyez-vous, c'est au moment où les Français n'arrivent pas à joindre les deux bouts, il y a une crise économique, une crise sanitaire. Peut-être que le ministre aurait pu penser à une destination un peu moins provocante.
Une gauche qui tente de surfer sur l'affaire à 82 jours du premier tour. Quant à droite, on joue la mesure. Pas d'appel à la démission. Pourquoi froisser un électorat susceptible de voter Pécresse dans moins de 3 mois? Alors pour la députée LR Annie Genevard, oui, l'image est désastreuse pour Jean-Michel Blanquer, mais la faute politique est ailleurs.
Le plus grave à mes yeux, c'est plutôt l'aspect chaotique de cette rentrée scolaire, le caractère inapplicable de ce protocole qu'il a fallu changer 3 fois en une semaine. Pour moi, la faute politique, elle est là.
La semaine dernière déjà, la séance de questions au gouvernement avait été houleuse, rentrée oblige. Elle promet cet après-midi d'être plus qu'animée. Une question, Jean-Michel Blanquer pourra-t-il rester en poste jusqu'à la fin du quinquennat ?
Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Service politique de France Inter, voilà donc l'un des piliers de la Macronie dans la tourmente. Est-il réellement menacé, Simon ?
Alors c'est ce que pourrait laisser penser Bruno, le silence de l'Élysée et de Matignon et le soutien, disons, modéré de ses collègues du gouvernement. Mais en l'état, Emmanuel Macron n'a aucun intérêt à lâcher son ministre. À 82 jours de l'élection, ce serait donner l'impression de céder aux oppositions. Alors il faut faire le dos rond, disent les marcheurs, laisser passer la tempête et ce week-end on n'en parlera plus. C'est ce que veulent croire en tout cas les plus optimistes. Tempête qui, en attendant, va souffler fort. Jeudi dans la rue, et surtout, vous l'avez dit, dans 2 heures à l'Assemblée, certains dans la majorité s'attendent même à des attaques sur le mariage du ministre le week-end dernier. Information qui est sortie ce matin dans la presse. Jean-Michel Blanquer doit faire amende honorable, juge un conseiller et admettre que s'il n'a pas commis de faute, ce séjour à Ibiza était bien une erreur sur le terrain de l'exemplarité. Quant à Jean Castex, s'il est interpellé, il appellera à ne pas céder à l'hyperpopulisme, nous dit l'un de ses proches. Le Premier ministre va en tout cas pouvoir caler sa défense avec le Président. Il déjeune en ce moment à l'Élysée avec Emmanuel Macron, bien décidé à ne pas entrer dans cette polémique qui, quoi qu'on en pense, vient contrecarrer ses plans.
Simon Le Baron en direct à 82 jours du premier tour de la présidentielle. Les échos de la gauche à présent. Vous connaissez le jeu Chercher Charlie. En voici un autre. Comprenez Christiane. Christiane Taubira, candidate à la présidentielle donc, et candidate à la primaire populaire qui aura lieu à la fin du mois. Jusque-là, c'est clair. Quelles conséquences tirera-t-elle de ce vote citoyen? Là, ce matin, sur France Inter, même la très pugnace Léa Salamé a du mal à suivre.
Je suis celle qui accepte les risques d'une investiture citoyenne. Donc moi, j'accepte ce risque-là. Ma cohérence est totale.
C'est-à-dire que si vous gagnez la primaire, vous continuez. Si vous perdez la primaire,
Vous arrêtez ?
Non, il faut comprendre la logique de la primaire. La logique de la primaire, c'est de répondre à ce désir et cette nécessité de rassemblement de la gauche. Ça signifie s'organiser en équipe autour du choix qui a été fait.
Là, j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Je vous pose la question parce que, expliquez-nous, si par exemple Jean-Luc Mélenchon remportait la primaire le 30 janvier, vous le soutenez ou vous restez candidate à la présidentielle ?
Moi, je ne raisonne pas comme ça. Je raisonne au sens où qu'est-ce que je crois nécessaire aujourd'hui pour la société française. Après, nous verrons ce qui sort de la primaire. Et chacun raisonne, ben oui, mais si c'est l'autre, je pourrais pas le rejoindre. Je suis pas dans ces logiques-là.
Mais est-ce que ce serait pas plus simple de dire, si parce je l'emporte, que... je continue, si parce je l'emporte que... pas, je me retire ?
Mais pourquoi vous voulez le poser en termes de se retirer ?
Christiane Taubira ce matin sur France Inter. L'intégralité de l'entretien est à réécouter sur franceinter.fr. En tout cas pour tous les candidats, il va falloir plancher, cela s'impose un peu plus chaque jour, sur le thème du pouvoir d'achat. Le prix des carburants atteint à nouveau des sommets. Gazole à plus d'1,60€, sans-plomb 95, plus d'1,70€. Le passage à la pompe est douloureux.
Ben là, par exemple, je viens de payer 65€ contre 50 d'habitude. Et comme je suis étudiant, je vous cache pas que c'est quand même un peu la galère.
J'ai deux voitures, c'est 4 pleins par mois, quoi. Il y a quelques mois, on était à 150€ par mois, on arrive à 200, quoi.
Il y a 20 ans, vous diviez le prix par deux, quasiment, en gasoil.
J'attends à la dernière minute pour faire le gasoil. Mais à un moment donné, il faut le faire. Ça sonne, pi. Donc il faut le donner à manger, à boire, quoi.
Quelques échos recueillis par nos confrères de France Bleu à Toulouse et Quimper. Particularité de cette nouvelle flambée des prix du carburant, elle arrive alors que le SMIC n'a pas connu de coup de pouce depuis près de 10 ans. La dernière fois, c'était au début du quinquennat Hollande. Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
Et la hausse est nette et brutale, ce dernier pic, n'est-ce pas ?
Oui, plus 10 centimes sur un mois pour le sans-plomb 95, plus 30 centimes sur un an, mais les prix étaient alors au plus bas, vu la crise. Dans certaines stations-service, certains carburants flirtent avec les 2 euros. Note ce matin le comparateur en ligne carbu.com. Les cours du pétrole s'envolent, du jamais vu depuis 2014. On a dépassé ce matin les 88$ le baril de Brent. Alors, ce qui fait grimper les cours, c'est d'abord la consommation de carburant qui augmente. On a appris à gérer la crise, le Covid. L'économie repart fortement. Deuxièmement, beaucoup préfèrent acheter du fuel et du diesel plutôt que du gaz, vu les prix très élevés. Troisième raison, l'offre de pétrole est plus faible qu'attendue. L'OPEP n'arrive pas à produire autant qu'elle s'est fixée. Production interrompue en Libye, au Nigeria, en Angola et en Équateur. Le Canada produit moins en raison du froid extrême. Et l'Arabie Saoudite demande à ses partenaires de ne pas puiser dans leurs réserves pour compenser. À ce stade, les analystes s'attendent donc à des cours du pétrole très élevés cette année, autour de $95 le baril, selon les analystes de la banque Goldman Sachs.
Hausse des prix de l'énergie, en particulier des prix en général, investissement massif à venir pour les transitions énergétiques, dette qui se creuse, négociations pour les salaires. Bref, ce contexte économique, on en parle avec notre invité à 13h30, l'économiste Jean-Hervé Lorenzi. Vos questions sont les bienvenues dès maintenant, 01 45 24 7000 ou l'appli France Inter rubrique Réagir. Quel a été l'impact de la pandémie sur la démographie l'année dernière ? L'INSEE dresse ce matin un bilan de la démographie en France en 2021. Bonjour Sylvie Lominez.
Bonjour.
Vous êtes la chef de l'unité des études démographiques et sociales à l'INSEE. Nous sommes près de 68 millions d'habitants en France, 67,8 précisément. La population augmente, mais on voit la marque de l'épidémie encore dans les chiffres de la démographie.
Oui, tout à fait. Comme vous le dites, la population augmente, mais à un rythme qui est le même que celui de l'année dernière, mais qui n'est pas très important, notamment parce que l'année 2021 reste marquée par la pandémie, avec des décès qui sont encore en nombre important.
Que ce soit sur les décès, sur les naissances, sur les mariages, au fond, 2021 a été meilleur que 2020, mais on n'a pas encore retrouvé le niveau d'avant la pandémie.
Alors oui, effectivement. Alors sur le front des décès, tout d'abord, on a eu 657 000 décès, toutes causes confondues en 2021. C'est quand même un chiffre important. Alors certes, c'est 12 000 de décès de moins que l'année dernière, mais c'est encore 44 000 décès de plus qu'en 2019. Donc c'est un niveau important. Sur le front des naissances, en revanche, l'INSEE est plutôt surpris du résultat, parce que en fait, ça fait une dizaine d'années que les naissances baissaient en France, et là, en 2021, on n'a pas de chute, enfin, ou de baisse qui continue des naissances. On a un niveau de naissance qui se maintient, qui est même très légèrement supérieur à 2019, de 3 000 selon nos estimations, et on pouvait ne pas s'y attendre parce qu'en début d'année 2021, pour le coup, on avait vu une chute très brutale des naissances.
Âge moyen à la maternité, 30,9. C'est une moyenne, hein, ça fait toujours bizarre, 30,9. ça continue d'augmenter, ça, pandémie ou pas ?
Ah oui, pandémie ou pas, c'est un phénomène structurel et donc il y a une augmentation continue et régulière depuis des années.
Et même si le taux de fécondité en France est supérieur à ce qu'il est dans beaucoup de pays européens, oui. Il reste inférieur au seuil de renouvellement.
Alors oui, il reste inférieur au seuil de renouvellement des populations, où c'est un petit peu au-dessus de deux enfants par femme pour le renouvellement des populations. Là, on a un indicateur conjoncturel de fécondité qui est un peu supérieur à 1,8, en très légère augmentation par rapport
1,83.
À 2019. Ouais. Et la France a le... Enfin, pour l'année 2019, hein, c'est les derniers chiffres européens, la France conserve... indicateur de fécondité le plus élevé.
Alors Sylvie Lominez, vous êtes là aussi parce que le recensement continue. Début du recensement 2022, ce sera jeudi. Est-ce que vous allez dans toutes les communes, toutes les maisons, tous les appartements ? Comment ça se passe le recensement ?
Alors le recensement a lieu dans toutes les petites communes de moins de 10 000 habitants, mais une année sur cinq.
Voilà.
Mais quand une petite commune est concernée par le recensement, tous les habitants de la commune sont interrogés. Et en revanche, dans les grandes communes, c'est un échantillon. Donc 8% des habitants des grandes communes de plus de 10 000 habitants sont enquêtés par le recensement.
Comment opère-t-on un recensement en temps de pandémie ? Comment faites-vous ? Est-ce que c'est particulier ou est-ce que la méthode est la même que d'habitude ?
Alors, il y a des précautions qui sont prises. Alors, premièrement, il y a déjà beaucoup de personnes qui répondent sur Internet. C'est largement plus de la moitié. Hein. Je crois que c'est 60% ou 62%, il me semble, de mémoire. Et donc, enfin, si on a envie de dire quelque chose, c'est répondez par Internet. Ouais. C'est mieux pour la sécurité, pour les conditions sanitaires, pour tout le monde. Mais tout le monde ne peut pas répondre sur Internet ou ne le souhaite pas. Donc, dans ces cas-là, l'agent recenseur remet un questionnaire papier, soit dans les boîtes aux lettres, soit en prenant rendez-vous, mais en restant sur le palier des personnes pour la sécurité de tous. Et si les personnes ont des difficultés à répondre au recensement, elles peuvent convenir d'un rendez-vous téléphonique avec l'agent recenseur qui les aidera à remplir le questionnaire.
Et c'est important de dire que le recensement concerne tout le monde, y compris les sans-abri.
Exactement.
Est-ce que globalement, sur l'ensemble de la population, vous avez beaucoup de refus ou les Français coopèrent avec vous ?
Je crois qu'il y a une très bonne coopération. Ouais. Il y a un taux de réponse qui est très, très élevé. Je ne dis pas qu'il est de 100%, mais il est largement au-dessus de 95%, je crois. Donc, et puis, c'est important pour tout à chacun, parce qu'à partir du recensement, il y a ce qu'on appelle les populations légales, officielles, sur la base desquelles beaucoup de décisions publiques sont prises. Hein, l'ouverture de pharmacies, les transports en commun, les crèches, les écoles, même les élus aux conseils municipaux. Donc, il y a tout un tas de décisions très importantes.
Ce travail est important. Merci beaucoup Sylvie Lominez d'être passée dans les studios de France Inter pour répondre à nos questions à propos d'économie et d'épidémie. Une note du Conseil d'analyse économique qui dépend de Matignon vient défendre le pass sanitaire annoncé en juillet dernier par Emmanuel Macron en France, mais l'équivalent a été mis en place en Allemagne et en Italie et partout, d'après cette analyse, encore plus en France. Il a permis de préserver à la fois l'activité économique et beaucoup plus important, des vies. Sur l'économie, le Conseil évalue l'effet du pass sanitaire dans la deuxième partie de l'année à 6 milliards d'activités en plus en 2021. Et combien d'hospitalisations et de décès évités à Norenstein ?
4 000 décès évités en France, selon cette étude. Et encore, c'est une fourchette basse. Une projection toutes choses égales par ailleurs, explique Mickaël Oliou-Barton, le mathématicien qui a dirigé cette étude.
On a supposé que le vaccin n'offrait qu'une protection directe sur les personnes vaccinées, que la vague aurait été la même, et sans prendre en compte la surmortalité provoquée par un engorgement des systèmes de réanimation. Donc ces 4000 morts, c'est vraiment une estimation basse.
Estimation basse, et pourtant c'est beaucoup plus de décès évités qu'en Allemagne ou en Italie, respectivement 1100 et 1300. En effet, cette étude compare nos trois pays parce qu'ils ont mis en place un pass sanitaire à peu près au même moment. Et chose notable, la comparaison est toujours favorable à la France, que ce soit pour le taux de vaccination ou le nombre d'hospitalisations évitées. Mickaël Oliou-Barton voit plusieurs facteurs à ces différences.
D'abord, en France, l'annonce a été faite de manière très claire, très centralisée, alors qu'en Allemagne, chaque Länder a mis des règles un peu différentes et des passes sanitaires en fonction de critères épidémiologiques locaux. D'un autre côté, en France, c'est aussi le pays qui avait le plus d'hésitation vaccinale. Donc c'est vrai que le pass sanitaire est un outil qui a été particulièrement efficace pour convaincre ceux qui doutaient, qui hésitaient, qui voulaient retarder ce moment-là.
À cela s'ajoute le retard de la vaccination en France à l'époque par rapport à ses voisins.
Et l'impact de l'épidémie se voit aussi dans les palais de justice. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
Nous en parlions hier, Charlotte, au procès des attentats du 13 novembre. Le président l'a annoncé formellement ce matin à l'audience. Le procès va à nouveau être reporté. Après Salah Abdeslam, un autre accusé est positif au Covid. Et le retard, Charlotte, vous qui êtes en direct du palais de justice de l'île de la Cité, le retard par rapport au planning initial commence à s'accumuler.
Oui, lorsque ce procès a débuté, le verdict était prévu pour le 25 mai. Il est désormais plus probable vers la mi-juin. J'ai donc modifié une nouvelle fois le planning, vient d'annoncer le président, devant une salle à l'immense box entièrement vide. Les accusés n'ayant exceptionnellement pas été extraits de leur cellule pour cette très très courte audience. Et chacun des reports liés au Covid implique un énorme travail d'organisation, a rappelé le président, car il faut recontacter chaque témoin cité, fixer une nouvelle date de comparution. Cela sollicite beaucoup de personnes du côté du greffe, a-t-il indiqué. D'autant que s'ajoute une autre contrainte de calendrier, car sur les 14 accusés de ce procès, 5 doivent ensuite être jugés à Bruxelles pour les attentats de l'aéroport de Zaventem et la station de métro Malbec le 22 mars 2016. C'est le cas, par exemple, d'Ali El Haddad Soufi, défendu par maître Jonathan Detaille.
Il y a quand même 4 mois qui séparent les deux procès, si ça se passe comme prévu. Maintenant, tout le monde a un œil attentif sur l'agenda de la Cour. Après, vous avez d'autres questions pratiques qui vont peut-être se poser au niveau de la remise des détenus, au niveau de leur arrivée en Belgique, au niveau de la préparation du dossier. Donc, il ne faudrait pas que le procès souffre de reports plus importants.
Et le président a donc fixé la reprise des débats à mardi prochain, s'il n'y a pas d'autres accusés contaminés d'ici là, et sous réserve que celui qui est positif ne soit plus souffrant. Mais j'ai eu la maison d'arrêt, a indiqué le président, et tant mieux pour lui, il n'a pas de forme grave.
Charlotte Piret en direct du palais de justice de l'île de la Cité à Paris avec Julien Girard pour les moyens techniques. À propos de l'épidémie, on a des raisons d'être optimiste, dit le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Delta a vraiment régressé, la circulation d'Omicron tend à ralentir. Attention, la vague hospitalière est loin de s'atténuer et les écoles, collèges et lycées restent sous pression. Au-delà du protocole sanitaire dans les établissements, beaucoup d'enseignants déplorent le manque de capteurs de CO2. Eh bien, dans certaines villes, on parvient à faire le plein. À Gérard Mohamed, la mairie de Besançon vient d'équiper ses 64 écoles de capteurs.
Faire classe la fenêtre ouverte en plein hiver à Besançon, ce n'est pas vraiment idéal. Karine Laurent, enseignante dans une école maternelle de la ville, en sait quelque chose. Alors, ces capteurs sont bienvenus.
C'est quelque chose de positif. Après, on questionne un petit peu le nombre. C'est-à-dire qu'un capteur de CO2 dans une petite école, ça doit pouvoir fonctionner. Un capteur de CO2 dans une grosse école, ça fait assez peu.
Mais c'est déjà ça. Il était temps d'agir, surtout pour la maire écologiste de Besançon qui a dépensé près de 13 000 euros pour ses capteurs. Anne Vigneault regrette surtout le temps perdu à cause, dit-elle, des hésitations du gouvernement sur le sujet.
C'est toujours dans des atermoiements. Du coup, on introduit encore une fois du flou, des problèmes de confiance. Et moi, je regrette que nous soyons en permanence sur quelque chose qui ne soit pas co-construit entre les collectivités et l'État. Parce que jusqu'à présent, toutes les problématiques sanitaires, c'est quand même bien depuis les collectivités que nous avons réussi à les régler.
Des collectivités en première ligne aussi qui doivent gérer un protocole sanitaire dicté par un ministre déconnecté du terrain, affirme Karine Laurent du SNIPP.
Pendant que certains essaient de mettre en œuvre ces mesures, lui, il est en vacances à Ibiza, effectivement. Voilà, on n'est pas tous au même endroit.
Les vacances à Ibiza de Jean-Michel Blanquer qui passent mal auprès des enseignants alors que de nouveaux appels à la grève sont lancés pour ce jeudi.
Grève qui s'annonce moins suivie que celle de jeudi dernier. Encore un mot du Covid. C'est vendredi que le Conseil constitutionnel se prononcera sur le pass vaccinal. 7 ans de conflit au Yémen, près de 400 000 morts dans les combats, mais aussi leurs conséquences, famine, maladie, manque d'eau. Face à face des rebelles, les Houthis, soutenus par l'Iran, et face à eux, une coalition, les forces gouvernementales yéménites, mais aussi l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Et hier, une nouvelle phase s'est ouverte dans cette guerre. Les rebelles Houthis ont attaqué les Émirats sur leur territoire. Des drones ont visé des camions-citernes à Abu Dhabi. Les explosions ont fait 3 morts et 6 blessés. Depuis hier soir, c'est la riposte. On compte au moins 11 morts à Sanaa, la capitale du Yémen. Christian Chéneau.
œil pour œil, dent pour dent. Dans cette guerre oubliée du Yémen, chaque protagoniste rend coup pour coup et la nouvelle année n'a pas apporté de répit, encore moins de solution politique au conflit. Après l'arraisonnement par les rebelles houthis, soutenu par l'Iran, d'un navire battant pavillon émirien au large du port d'Odeida le 3 janvier dernier, la tension est remontée en flèche, d'autant qu'Abu Dhabi appuie militairement et financièrement des milices loyalistes dans des combats qui se déroulent actuellement dans la province pétrolière de Chaboua. Or, les Houthis ont perdu du terrain dans les derniers affrontements et l'attaque de drones hier contre des infrastructures stratégiques émiriennes sonne comme un avertissement sans frais des rebelles yéménites aux autorités d'Abu Dhabi pour qu'elles cessent leur soutien aux milices loyalistes. Les Houthis sont passés maîtres dans l'utilisation des drones. Depuis plusieurs mois, ils ont multiplié les attaques contre des cibles saoudiennes, des engins très difficiles à détecter et à intercepter. Longtemps épargnés par le conflit yéménite, démarré au printemps 2015, les Émirats sont désormais eux aussi en première ligne.
En France, en bref, ce sont des soupçons. Il est présumé innocent, mais une enquête est ouverte après une plainte pour agression sexuelle contre le journaliste Jean-Jacques Bourdin. C'est ce que précise le parquet de Paris ce matin. Avant l'Open d'Australie, on a parlé ô combien de Novak Djokovic, mais le sort d'une autre vedette du tennis mondial est beaucoup plus préoccupant. Il s'agit de Peng Shuai, la joueuse chinoise disparue des circuits depuis qu'elle a accusé un haut responsable de son pays d'agression sexuelle. Les quelques informations depuis le mois de décembre sont très parcellaires. Alors que l'Open d'Australie a commencé, la Française Alizée Cornet donne des nouvelles plutôt rassurantes à Fabrice Abgral.
Je sais de sources sûres qu'elle n'est pas en danger physiquement. Après, oui, enfin, je suis inquiète pour ce qu'elle va devenir, pour comment elle va évoluer après ça, quand est-ce qu'elle va être vraiment libre. Mais je sais qu'elle va à peu près bien. Voilà. Donc, ce n'est pas la grosse inquiétude que j'avais eue en novembre, où vraiment, à un moment donné, j'ai quand même imaginé enterrée dans une fosse. Donc voilà, bon, on va dire qu'elle n'est pas en danger pour sa vie. Et j'ai envie de dire, vu les circonstances, c'est presque déjà rassurant, quoi. Pas lâcher l'affaire non plus, rester solidaire d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, voilà, bon, c'est le tennis, hein, c'est un monde très solitaire. On l'a vu avec l'histoire de Novak. C'est difficile de mettre en place des actions solidaires quand il faut défendre peut-être d'autres joueurs.
Alizée Cornet avec Fabrice Abgral. Elle s'est qualifiée cette nuit pour le deuxième tour de l'Open d'Australie, tout comme les deux numéro 2 mondiaux, Daniil Medvedev chez les garçons, Arina Sabalenka chez les filles. Qualification cette nuit également d'Andy Murray et d'Arthur Rindenknecht. Dans un instant, le temps de ce jour.
Avec Omicron, les règles d'isolement évoluent. Si j'ai été en contact avec une personne positive au Covid-19, combien de temps dure mon isolement ?
Si vous êtes totalement vacciné ou que vous avez moins de 12 ans, alors vous n'avez pas besoin de vous isoler. Mais vous devez faire un test dès que vous savez que vous êtes cas contact et il faut continuer à vérifier que vous n'avez pas le Covid en faisant un autotest 2 jours et 4 jours après votre dernier contact avec la personne positive. Si vous n'êtes pas totalement vacciné ou que vous n'avez reçu aucune dose, vous devez vous isoler pendant 7 jours et faire un test au 7e jour pour vérifier que vous n'avez pas le Covid. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
Au terme de Saint-Amand, entre Lille et Valenciennes, nous prenons soin de vos articulations, de votre dos, de vos poumons, de votre santé. Chaîne thermale du soleil, prendre soin de vous, c'est notre métier.
Après les choses humaines, prix Goncourt des lycéens, Gallimard présente La Décision, le nouveau roman de Karine Thuil. Mai 2016, dans une aile ultra sécurisée du palais de justice, la juge Alma Revel doit se prononcer sur le sort d'un jeune homme suspecté d'avoir rejoint l'État islamique en Syrie. À ce dilemme professionnel s'en ajoute un autre plus intime. Alma entretient une liaison avec l'avocat du mis en examen. Entre raison et déraison, sa décision risque de bouleverser sa vie et celle du pays. La Décision de Karine Thuil, un roman Gallimard.
Le temps de ce jour.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est une journée d'hiver entre grisaille et soleil.
Eh oui, alors du nord-ouest vers le centre Val-de-Loire, le Lyonnais, là les nuages dominent. Alors ça n'empêche pas quelques éclaircies de temps en temps, mais vraiment trop discrètes. Même programme pour les plaines du sud-ouest. Du nord de la Seine vers la région parisienne et le nord-est, là les nuages bas se déchirent plus facilement. Le soleil reprend le dessus. dessus. Ailleurs, le soleil est bien installé, juste quelques nuages sur les côtes varoises et sur le sud de la Corse. Les températures, elles perdent quelques degrés. On a souvent 3 à 8 degrés cet après-midi. 3 petits degrés à Lyon ou à Agen sous les nuages bas. 5 degrés à Cherbourg, Tours, La Rochelle, Bordeaux et Dijon. 7 à Lille, Brest et Strasbourg. 8 degrés à Paris, à Tarbes. 11 du côté de Nîmes, 14 à Nice. Alors demain, ce sera gris, humide, avec des brouillards parfois givrants, un peu de bruine, quelques flocons même du Massif central jusqu'au nord-est. Pour le soleil, il faudra aller sur les Pyrénées ou sur les Alpes.
Merci Élodie Calac. Météo France, bientôt 13h30.
France Inter, le 13-14. Bruno Duc.
Et trois actualités économiques parmi d'autres en ce mardi 18 janvier. Plus d'1,60€ le litre de gazole en moyenne la semaine passée. Plus d'1,70€ le sans-plomb. Les prix des carburants atteignent à nouveau des records, symbole d'un coût de l'énergie en pleine explosion. Et ce n'est qu'un début. La transition énergétique inévitable demandera des milliards d'investissements. Petit 2. Bruno Le Maire a présidé hier son premier conseil des ministres des Finances de l'Union européenne dans le cadre de la présidence française. Le ministre français appelle à revoir les règles s'agissant de la dette et des déficits. L'Allemagne est-elle d'accord? Pas sûr, pas sûr du tout. Petit 3, 16%, c'est la hausse moyenne des salaires négociés dans l'hôtellerie-restauration. Les négociations continuent dans d'autres secteurs. En toile de fond, la hausse du coût de la vie. Dans ce contexte, quelles sont les propositions des candidats à la présidentielle en matière économique? Comment tenir les différents leviers? Investissement, salaire, économie, sortie du quoi qu'il en coûte? On ne voit rien de très clair émerger à un peu plus de 80 jours du premier tour. L'invité du 13-14 est l'économiste Jean-Hervé Lorenzi, président des rencontres économiques d'Aix-en-Provence qui se tenait il y a quelques jours, et il appelle les candidats à s'emparer d'urgence de ces sujets. 01 45 24 7000 pour vos questions et réflexions et l'appli France Inter, rubrique Réagir. Bonjour Jean-Hervé Lorenzi.
Bonjour.
Merci d'être dans les studios de France Inter. Est-ce que c'est sûr, on va abandonner la règle des 3% de déficit et la règle d'une dette inférieure en théorie à 60% du PIB? C'est ce que semble indiquer Bruno Le Maire.
Alors peut-être que les 3% vont être maintenus, mais comme on est très hypocrite dans ce milieu, on va simplement faire des exemptions. C'est qu'on va dire par exemple que des dépenses de recherche ou des dépenses militaires ou des dépenses sont hors du sujet. Donc c'est comme ça que ça va se présenter, de mon point de vue.
Oui. Ça vous semble recevable d'ailleurs de mettre de côté une série de dépenses considérant que c'est des investissements porteurs d'avenir et qu'on n'a pas à les comptabiliser dans la dette?
Oui, c'est un débat très ancien. Ouais. Cette règle de 3% est une règle tirée du chapeau. Donc, au fond, que ce soit 3, 4 ou 2%, tout ça était le pur produit d'une sorte de conformisme sur un sujet. Moyennant quoi, c'est comme ça qu'on va s'en sortir, parce qu'il va falloir trouver un accord avec les Allemands.
Oui.
Vous avez dit qu'on n'est pas sûr qu'ils soient d'accord, évidemment qu'ils ne seront pas d'accord. Oui. En tous les cas, toute une partie de la coalition, les libéraux. Donc, ce qui va se passer, c'est sur le gros sujet, c'est sur les 3% et les exemptions.
Oui.
Et puis, deuxième chose sur la dette, revenir à 60% alors qu'on est à 120, c'est quand même un tout petit peu dire qu'on va grimper au sommet de l'Everest tout en se préparant au plateau des 1000 vaches, c'est-à-dire à peu près du même niveau. Donc, je pense que le sujet de la dette va être en réalité moins important. On va en parler, bien entendu, mais moins important que la règle qui doit s'appliquer dès 2022 ou 2023, c'est-à-dire la règle des 3%.
Est-ce que, tout de même, il va falloir faire des économies et des économies substantielles dans les années à venir? L'Institut Montaigne les évaluait pour être dans les clous à 70 milliards au fil du quinquennat à venir. Est-ce que vous nous dites, OK, on va un peu adapter la règle, néanmoins, nous avons des décisions importantes à prendre sur ce terrain?
Oui, mais pas mettre en avant d'abord et avant tout les dépenses. Le problème que nous avons à traiter, ce que je vais dire est évident, c'est que notre système de fourniture de biens et services sociaux, que soient les problèmes de santé, d'éducation, les problèmes du meilleur général de ce qu'on fournit en matière de protection sociale, est aujourd'hui non pas défaillant, parce que les gens sont formidables, c'est pas le sujet, mais l'organisation qu'on a mise en place n'est pas adaptée. Alors ça, c'est évident sur le plan de la santé, c'est évident sur le problème de l'éducation, et c'est ça d'abord
auquel il faut réfléchir. Donc ça, c'est des dépenses à venir, ça.
Ce sont à la fois des dépenses et surtout de l'organisation. Donc, réfléchissons peut-être à dépenses fixes, avant de se dire on va diminuer ceci et cela. Réfléchissons d'abord à comment on réorganise. Si on prend le problème de la des hôpitaux, on sait que il y a, et ça je crois que tout le monde est d'accord, il y a un déséquilibre entre la partie administrative qui est excessive et la partie des soignants. Si vous allez à l'hôpital cet après-midi ou moi, j'y vais, je préfère avoir un soignant qu'un administratif. Donc on a toutes ces problèmes de réorganisation à imaginer, et après, je pense que la réorganisation, je veux dire, conduit elle-même à essayer de rationaliser les choses. Il est clair qu'on a une sorte de surcoût de la protection sociale en France qu'il faut essayer de, auquel il faut réfléchir, mais d'abord et avant tout réfléchir à son efficacité.
Surcoût lié à ces questions d'organisation, ou il y a d'autres sources
non,
de ce surcoût?
Surcoût très largement lié à la réorganisation. Sur les problèmes d'éducation, on a un énorme problème que montrent toutes les enquêtes internationales. C'est pas du tout la remise en cause des enseignants, parce que il y en a des mauvais, il y en a des bons, comme partout, comme dans toutes les disciplines et dans tous les métiers. Il se trouve simplement que le dispositif lui-même n'est pas bien organisé. Vraisemblablement, avoir une éducation nationale qui soit complètement centralisée n'est pas un bon système. Ça ne marche pas. Et en fait, ça ne marche pas avec des conséquences qui sont très inquiétantes. Le fait, en réalité, que la société française est très segmentée. Vous êtes fils, en gros, de bourgeois, fille ou fille de bourgeois. Vous êtes, en gros, dans des structures et dans des trajectoires qui sont des trajectoires qui vous permettent d'avoir un job et vous en sortir. Vous êtes dans un secteur qui est plus populaire et c'est plus difficile. Attention à ça.
Quand on parle, Jean-Hervé Lorenzi, d'économie, celle qui en parle le plus parmi les candidats, c'est Valérie Pécresse, qui parle de suppression de fonctionnaires. Alors, en sanctuarisant certains secteurs, la santé, justement, l'éducation, la sécurité, mais y a-t-il trop de fonctionnaires en France? Éternelle question de campagne électorale.
Oui, alors, si on reprend exactement ce qu'elle dit, je suis pas du tout en train de faire de la politique, mais juste pour essayer d'être précis, elle dit que elle ne remplace pas un fonctionnaire qui part sur trois, et en fait, elle augmente de mémoire, je crois, 50 000.
C'est ça, elle.
50 000.
200 000
dans
suppressions
des secteurs,
et 50 000
supprime,
dans les...
Voilà. Elle en supprime. C'est clair qu'il y a des domaines où il n'y a pas besoin d'être un ultra-libéral pour penser qu'il y a des domaines où on a parlé des hôpitaux où vraisemblablement un ensemble de fonctionnaires se marchent un peu sur les pieds. Je parle de fonctionnaires administratifs.
Pas de soignants.
Donc, moi, ça ne m'a jamais gêné de me dire que on traite un sujet, notre système est pas top, on dépense beaucoup d'argent, à juste titre, mais le système est pas top. Donc, il faut le regarder sans crainte, c'est normal. Oui, il y a vraisemblablement des domaines où il y a trop de sous-fonctionnaires, il y a des domaines où il n'y en a pas assez.
Question d'Alain au standard pour vous, Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour Alain.
Oui, bonjour monsieur.
Nous vous écoutons, c'est à propos de l'énergie.
Voilà, je voudrais savoir, est-ce qu'il ne faudrait pas renationaliser le gaz et l'électricité? Parce qu'on voit aujourd'hui que l'électricité et le gaz, donc, au niveau de la bourse, jouaient comme de vulgaires savonnettes. Et on voit très bien au niveau de ceux qui fournissent là, toutes les entreprises, Total et compagnie, ils n'arrivent pas souvent à faire face aux fluctuations et à tenir leur engagement, alors qu'on nous disait que la concurrence forcément nous amènerait une diminution d'électricité et du gaz. Voilà.
Merci pour votre question. Alors les prix de l'électricité et du gaz dépendent de marchés internationaux, on est d'accord Jean-Hervé Lorenzi. Alain nous dit, est-ce qu'il ne faut pas renationaliser EDF et GDF?
On peut très bien imaginer cette solution, je crois qu'elle n'est pas très réaliste aujourd'hui, mais je comprends très bien qu'on se pose la question. Mais moi, je suis plus, soucieux du fait de rebooster EDF. En fait, il faut... Le vrai sujet d'EDF, c'est qu'il a quand même quelques soucis en matière, par exemple, deux centrales nucléaires, il ne vous a pas échappé qu'il y a un problème de risque.
20%
sur des soudures.
Voilà.
Des soudures. Enfin, moi, je ne suis pas spécialiste, mais soudures, j'ai beaucoup d'amitié pour EDF et je trouve que c'est une superbe boîte.
20%
mais
des réacteurs en maintenance.
Mais il se trouve que pendant 10 ou 15 ans, on a laissé tomber un peu le nucléaire. Et donc, le problème, ça va être un problème de recapitalisation. On a demandé aussi à EDF de fournir aux concurrents de l'électricité dans des conditions qui sont quand même extrêmement défavorables pour EDF. Donc c'est plutôt ça que les sujets nationalisation ou maintien d'un secteur qui est en fait EDF reste très largement public. Donc en fait c'est un peu une forme de dispositif. EDF est public et il faut juste lui donner les moyens de redémarrer, et notamment en matière de recapitalisation.
Et d'ailleurs, il y a un arbitrage qui a été fait ces derniers jours au nom de la lutte pour le pouvoir d'achat et de la limitation de la hausse du coût de l'énergie. On a demandé, vous le disiez à l'instant, à EDF de vendre davantage d'électricité à pas cher. Ça fait un trou de 8 milliards dans les caisses. On a trouvé un équilibre entre on protège les foyers, les électeurs aussi, et on met tout de même EDF en difficulté, EDF déjà pénalisé par l'état de ses centrales.
Eh bien, vous voyez, moi, je suis en réalité plutôt dans ce cadre-là défenseur d'un EDF qui est quand même un peu, j'allais dire, la vache à lait du dispositif. EDF est une entreprise qui peut-être à des enjeux majeurs, notamment la relance du nucléaire et le maintien du stock. J'aurais trouvé une autre formule que celle-là, qui quand même est, leur colle 8 milliards de pertes en plus, oui. De pertes. Donc je veux dire, c'est quand même, je trouve, très audacieux par rapport au EDF. C'est plus important que ça va, si c'est nationalisé ou pas nationalisé.
Et un cours de bourse qui a dégringolé vendredi. Autre question pour vous, Jean-Révé Lorenzi. Michel au standard. Bonjour Michel.
Oui, bonjour. Inter. Oui, ma question c'était de dire que on oppose trop souvent l'écologie à l'économie. Or, si on fait pas attention à l'écologie, ça impacte au niveau écologique. Hein. Regardez les incendies, ça impacte financièrement et économiquement. Mais je dois être concis, donc je peux pas développer un petit peu. Mais il y a les incendies, il y a la sécheresse, il y a des milliers de morts, et puis il y a aussi un coût économique très grand.
Et on voit bien notamment à travers les compagnies d'assurance qui disent que le coût de l'assurance des catastrophes climatiques est de plus en plus élevé, pour résumer votre propos. On a devant nous, Jean-Hervé Lorenzi, des investissements massifs à faire dans la transition écologique, et ça ne ressort pas assez clairement des débats pour l'instant.
Si vous m'autorisez, allez-y. Pour le moment de débat économique dans le pays, avant la présidentielle, zéro. Pour des tas de raisons, dont l'une qui vient d'être évoquée il y a un instant. D'abord, on ne sait pas du tout ce qu'est l'impact de la situation sanitaire, mais surtout, on ne sait pas quel est l'impact de la prise en compte légitime, vous avez parfaitement raison, de la décarbonation, la transition. C'est gigantesque qui va avoir lieu. C'est peut-être, alors les chiffres varient, mais en tout cas, une cinquantaine de milliards d'euros. C'est très important. Et il faut savoir, un, qui va payer, deux, que ce ne soient pas les ménages les plus défavorisés, oui, ou revenus les plus faibles qui aient à payer cette affaire. Donc ça pose un problème, un, d'investissement, deux, de pouvoir d'achat, trois, de redistribution qui permet aux plus fragiles de ne pas être les grandes victimes de cet impact. Donc vous voyez, vous avez parfaitement raison, j'oppose pas économie et écologie, je pense que l'écologie s'impose, enfin la transition énergétique s'impose, et que il faut voir que l'impact de cette affaire est absolument géant, et il faut la traiter de manière économique et sociale.
Et je retiens aussi le début de votre réponse. À ce stade, on ne mesure pas l'impact de la crise sanitaire. On était resté sur une fin d'année 2021 où on se disait ça reprend, et ça reprend fort, avec même des pénuries, par exemple les semi-conducteurs. Là, on a du mal à évaluer en termes de conjoncture quel va être l'impact de cette nouvelle vague.
On n'a pas la queue d'une idée sur le sujet. Ceux qui, honnêtement, je peux vous faire des prévisions pour le mois de février. Et là, je pense que je ne prends pas trop de risques.
Mais au-delà, c'est risqué.
C'est pas très sérieux. On ne sait pas très bien ce qui va se passer. Personne ne sait comment les gens vont reprendre des activités à la sortie du télétravail, etc., etc. Donc, moi, je demande, comme pas mal d'économistes, que nos candidats prennent le risque de traiter ces deux sujets. Petit 1, comment on réagit par rapport à une éventuelle poursuite finalement du défilé sanitaire que évidemment je
que personne
pas
ne
du
souhaite
tout,
ouais.
que personne
ouais.
ne souhaite que personne ne souhaite
et petit 2
et petit 2 comment on prend en compte cette trajectoire nouvelle qui inclut la transition écologique, la décarbonation et qui évidemment modifie l'investissement, la consommation et le pouvoir d'achat.
Merci beaucoup Jean-Hervé Lorenzi d'être venu dans les studios de France Inter. J'ajoute qu'il y a un troisième sujet qui vous tient à cœur, c'est le 1,5 million de jeunes qui sont sans emploi, ni en recherche d'emploi, ni en formation, les NEET. Voilà un autre sujet pour la campagne électorale. Merci beaucoup, 13h44.
France Inter, le 13-14.
Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Vous l'entendez, vous, la perceuse ?
Oui, oui, c'est pour accompagner le départ de Jean-Hervé Lorenzi.
Bon, je ne sais pas si les auditeurs entendent, mais il y a des travaux juste à côté. Le vif de l'histoire dans une dizaine de minutes.
Ben, l'énergie toujours, hein, le beau temps où il y avait une bourse du charbon à Londres.
La civilisation du charbon avance là, le feuilleton et la question de la formation, les compagnons du devoir. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Dans C'est une chanson aujourd'hui, un artiste dont la réputation monte au Québec, il est chanteur, multi-instrumentiste, c'est Vincent Roberge. Son deuxième album Crash sort cette semaine.
15 titres électro-pop dans lesquels il évoque l'amour, l'amitié, la vie qui change, le succès. Un succès qu'il a lui-même rencontré avec son premier album sorti en 2018. Celui-ci s'appelait La nuit est une panthère. Quant à lui, son nom de scène, eh bien ce n'est pas Vincent Roberge. Ah. Non, parce que pour faire court, ça ne sonne pas assez artiste. Depuis qu'il est chanteur, il se fait appeler Les Louanges.
Les Louanges, ben c'est pas compliqué, c'était mon surnom quand j'étais adolescent. Avec les potes, ça va, il y en avait un qui se faisait appeler La Croûte et aussi Le Corbeau. Fait que moi, Les Louanges...
C'est plus joli.
C'est pas mal plus joli. J'ai toujours été le chanteur dans mes groupes quand on était au lycée, genre. Puis c'est un peu moi le petit prince, là. Du groupe, fait que Les Louanges, on dirait que ça s'y collait bien. Puis quand est venu le temps de me trouver un nom d'artiste, j'en avais déjà un.
Et les gens vous appellent Les Louanges?
Il y en a qui m'appellent Loulou. Je suis tellement imposant dans la vie de tous les jours. Loulou, ça aide à adoucir. If you want me to stay, I'll be around today to be available for you to see. I'm about to go. Me to stay, I got to be me. You'll never be in doubt, that's what it's all about. You can't take me for granted and smile. Count my days, I'm gone, forget reaching me by phone, because I promise I'll be gone for a while. When you see me again, I hope that you have been the kind of person that you really are now.
Et c'est une chanson du groupe Sly and the Family Stone qui a choisi de nous faire écouter Les Louanges, Frédéric, If You Want Me to Stay.
Traduction, si tu veux que je reste, mais c'est plus dansant en anglais, Bruno. Un titre sorti en 1973 sur l'album Fresh, Les Louanges n'étaient pas nés, ben non, il a 25 ans aujourd'hui. Et c'est au lycée qu'il a découvert ce groupe et cette chanson grâce à l'un de ses profs de musique qui lui a beaucoup appris, notamment sur le jazz, sur le rap, sur le funk.
Patrice Bouchard, professeur de batterie, qui était un peu le rebelle de l'équipe de profs. Son but, c'était de nous éduquer sur la culture musicale. C'est un batteur de funk, là, puis pour qu'on suive le rythme, il nous mettait des casques de construction, il nous donnait des coups de crayon sur la tête quand on suivait pas le rythme. Ça fait un bail, je lui ai parlé. Quoique au début de la pandémie, j'avais fait FaceTime avec lui. Il se porte bien. Moi, cet album-là me suit depuis que j'ai 14 ans, peut-être. Puis c'est une référence, c'est un peu intemporel. C'est tellement de qualité. En plus, il ressemble pas aux autres albums qu'il avait fait avant. C'est un peu une espèce de alien. C'est vraiment un ovni qui arrive pas à vieillir, on dirait. La voix de Sly est complètement folle puis impossible à imiter. C'est bien un album qui m'accompagne depuis longtemps dans ma vie puis qui m'a un peu formé. C'est bien cet album-là, puis dans le fond, cette chanson-là.
Elle vous met dans quel état, cette chanson-là?
Le groove est super sur la chanson. Ça donne envie de danser, mais en même temps, quand tu te mets à chanter cette chanson-là, tu peux y aller d'une manière un peu plus mélodramatique. C'est un peu comme, en fait, beaucoup de choses dans ma musique. Souvent, c'est toujours un petit peu mélancolique sur les bords, mais en même temps, on est toujours capable de danser.
C'est une chanson que vous avez fait découvrir à d'autres?
Ah oui, toujours. Moi, c'est pas compliqué. Si je sais pas quoi mettre dans une soirée, là, je mets cet album-là du début jusqu'à la fin, puis ça marche.
If you want me to stay, Sly and the Family Stone. C'était donc Frédéric, le choix du Québécois Vincent Roberge.
Nom d'artiste, Les Louanges, dont le deuxième album Crash sortira vendredi.
Merci Frédéric Pommier, à demain.
À demain.
Dans le feuilleton, nous passons une semaine dans une maison de compagnons du devoir, celle de Pantin, au nord-est de Paris. La formation, l'apprentissage est évidemment un moment clé pour les jeunes adultes qui veulent s'insérer sur le marché du travail. Et le compagnonnage propose un type particulier de formation, notamment il faut faire ses preuves auprès des aînés. Parole de jeune compagnon, au micro de Sarah Guibaudeau.
Donc là, vous avez l'atelier des matériaux souples, donc ici les celliers. Un peu plus loin, les tapissiers, les cordonniers bottiers et tout au fond, les maroquiniers.
Un papier, un franc à papier, s'il te plaît, une gomme et il faut qu'on se prenne une grande épaisse.
Alors, moi, je m'appelle Bonnie, j'ai 25 ans et je suis apprentie en deuxième année en tant que tapissier en siège. Sur mon projet d'adoption. Donc, je vais faire une tenture murale à base de carrés décoratifs et de tissus tendus. C'est et bon. Là, on va tracer tous nos petits carrés avant de découper les tissus, le contreplaqué, etc.
C'est quoi un projet d'adoption ?
C'est une œuvre pour montrer aux compagnons ainsi qu'aux anciens qui sont sédentaires aujourd'hui de quoi nous sommes un petit peu capables et dans quelle voie nous dirigeons et nous aimerions nous diriger dans le métier.
Et donc vous vous retrouvez là, même le samedi, à travailler, c'est quand même un investissement assez fort aussi.
Oui, mais ce qui est vraiment bien, c'est que le samedi, on a des anciens qui sont là justement, qui prennent du temps pour nous aider et nous apprendre de nouvelles techniques et un plus grand approfondissement dans le métier.
Bonjour, vous êtes en train de finir une chaussure, c'est oui. Ça
Là, je fais mes finitions de semelle, ouais.
C'est magnifique, c'est des mocassins.
Merci. Richelieu, lassage latéral. Alors, moi, c'est Louis, j'ai 23 ans et je suis en deuxième année de CAP cordonnier bottier, suite à une réorientation, parce que j'ai fait une licence informatique avant et j'ai fait un an de fac de sport aussi. Ouais.
Et pourquoi vous avez choisi les compagnons?
Parce que c'est la meilleure école. Je pense, pour moi, en termes de qualité d'apprentissage, qualité de travail. Puis c'est une formation qui est unique, en fait, avec le Tour de France et puis la proximité qu'on a tous entre nous. Je trouve ça assez sympa, quoi. Moi, là, j'ai eu une semaine de stage et puis je reste ce week-end pour finir mon travail d'adoption. Parce que si je suis adopté, je peux partir sur le Tour de France et j'intègre la communauté des compagnons. Pour apprendre le métier, je trouve que c'est très bien, justement, de voir différentes entreprises, différentes techniques, différents points de vue.
Alors, pardon pour la question, mais toutes les chaussures ne sont pas fabriquées en Asie ou en Italie, il reste une fabrication française ?
Il en reste. Il y a même un retour, je trouve, de manufactures de chaussures en France, d'artisans en France qui se lancent. Il y a un regain d'intérêt pour la belle chaussure. Bah, on fait un peu partie du mouvement, du coup, en essayant de les fabriquer.
Guénel, je voulais vous demander, ces dernières années, on a vu donc l'apprentissage se développer beaucoup. Vous avez vu aussi chez les compagnons vos effectifs augmenter ?
Effectivement, on a vu nos effectifs augmenter, pour pas dire doubler ces dernières années, avec tout profil. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui sortent de 3e et qui s'orientent directement vers ces métiers-là. Vous avez des post-bac et aussi beaucoup de personnes en reconversion professionnelle. Et donc, on a des jeunes dans nos maisons de compagnons qui ont entre 15 et 50 ans.
Le feuilleton chez les compagnons du devoir. Sarah Guibedeau, réalisation Lucie Lemarchand.
France Inter. Le 13-14.
Il s'agissait de mettre en commun ce qui permet de se chauffer, se déplacer et ce qui permet de fabriquer des armes. Après la Seconde Guerre mondiale, la première étape de la construction européenne fut en 1951 la création de la CECA, Communauté du Charbon et de l'Acier. Aujourd'hui, alors que la France vient de prendre la présidence du Conseil des ministres de l'Union européenne, le charbon est à nouveau l'objet de discussions, mais pour des raisons écologiques. Comment décarboner notre économie? Jean Lebrun, le vif de l'histoire, en 70 ans, changement d'horizon complet.
Excellent livre, Charles-François Matisse, La civilisation du charbon, faut-il dire feu, la civilisation du charbon. Alors c'est un livre centré sur le Royaume-Uni, qui n'a pas été de l'aventure de la CECA, a toujours mené seul sa politique en la matière. Je ne sais pas si nos auditeurs entendent le bruit derrière, croirait dans une mine de charbon. Enfin, il fait moins chaud quand même. Si le pays au 19e est fier d'être le plus énergivore du monde, c'est pense-t-il que Dieu a voulu lui donner une manne. À l'Expo universelle de 1851, sont présentés au public des blocs de charbon de 13, 16, 24 tonnes. Deux souveraines règnent en même temps à l'époque, Sa Majesté la Reine Victoria et Sa Majesté Noire. Le charbon, réputé inépuisable, est visible partout. Il nourrit l'industrie, alimente les cheminées de Mrs. Brown et de John Bull. Les locomotives fument dans des paysages que l'exploitation minière a bouleversé.
Alors aujourd'hui, le charbon, c'est encore le 6e de la production européenne d'électricité. Sa part ne baisse pas dans la production mondiale, mais nous avons du mal à le concevoir parce qu'il est devenu invisible.
Ben oui, il est réduit à servir discrètement les centrales thermiques au Royaume-Uni. Au 19e, c'était autre chose. Les sujets des deux majestés, la reine et la noire, avaient le cœur et l'esprit tournés vers le charbon comme vers un soleil noir. John Bull avait appris comment stocker le charbon chez lui, comment nettoyer l'âtre, et en posant quelques braises sur un papier froissé, à allumer le feu. Mrs. Brown savait les gestes qu'il fallait faire au-dessus de sa cuisinière. Tous ces savoir-faire constituaient les Britanniques dans leur intimité. À propos d'intimité, Charles-François Matisse signale les vertus du bain de feu que recommandait le docteur Marie Stopes. Une demi-heure nue devant la cheminée et les rayons biovitriques du charbon vous ragaillardissez.
D'accord, mais vous ne parlez pas de la fumée, moi, recommandable pour la santé.
Bon, oui, le pétrole, le gaz, est-ce que c'est vraiment plus sain? Dans l'entre-deux-guerres, les intérêts économiques liés au charbon se sont fédérés en un comité qui va se porter efficacement sur tous les fronts disputés. Le charbon est-il critiqué pour la fumée, le fog qu'il produit? Indubitablement oui, mais on peut produire une variété de charbon, ça s'appelle la coalite, qui n'en dégage pas. À chaque difficulté technique, on finit toujours par découvrir une issue technique. Et le lobby du charbon multiplie les opérations de publicité, de promotion, allant jusqu'à envoyer des bus, sillonner les routes ou à produire des bouchons à l'emblème du charbon pour les radiateurs de voitures.
Bon, il n'empêche, le Royaume-Uni lui-même va se lancer après la guerre dans une diversification. C'est le mix énergétique dont on parle tant aujourd'hui.
Oui, au Royaume-Uni, la dernière mine de fond a fermé en 2015, même s'il subsiste une douzaine de mines à ciel ouvert. Mais enfin, on ne peut pas parler de civilisation du mix énergétique. Ça ne fait pas rêver, note Charles-François Matisse. La peur de la pénurie, elle, ça fait cauchemarder. Il paraît qu'en France, cet hiver, ça va passer ric-rac, et encore si les températures ne sont pas trop basses. Une douzaine de nos réacteurs nucléaires, vous le disiez tout à l'heure, sont à l'arrêt, et le gouvernement va donner l'autorisation à nos deux centrales thermiques subsistantes, Cordemais et Saint-Avold, de pousser les feux. Alors les Polonais rigolent dans leur coin. Ils songent à négocier âprement avec la présidence française de l'Union le projet phare visant à réduire les émissions carbone de 55% à l'horizon 2030. En tout cas, les Polonais, alors que la Cour de justice européenne a ordonné l'arrêt de leur mine à ciel ouvert qui pollue leurs voisins tchèques, préfèrent payer une astreinte de 500 000 euros par jour plutôt que de fermer. Alors on peut dire feu la civilisation du charbon. En revanche, le charbon reste un maillon qui ne peut pas manquer sans inconvénient.
Charles-François Matisse, La civilisation du charbon, s'est publié chez Vendémiaire. Merci Jean Lebrun.